Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai annoncé à l'avance ce sujet. J'ai donné comme titre à cette soirée « La vie intime du couple ». C'est un sujet délicat, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Et sincèrement, je me suis posé la question, aborder le thème de la sexualité dans la Bible, est-ce qu'il faut le faire ? Bien sûr, dans le cadre de la vie spirituelle. Et si on prenait le temps, on se rendrait compte qu'on ne peut pas dissocier beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Sur le moment, je vous avoue, je me suis dit, faut-il en parler ? Et cet an dernier, j'ai assisté à plusieurs réflexions. On m'a posé certaines questions et je me suis dit, oui, il faut en parler. Il faut en parler, pourquoi ? Parce que Dieu en parle. Dieu en parle et il faut en parler dans le cadre que Dieu en parle. Si c'est écrit, c'est que c'est utile. Vous comprenez ? À partir du moment où quelque chose est écrit dans la Bible, on peut tous en déduire que c'est utile. Vous êtes d'accord avec moi ? Et si certains propos pourraient vous choquer, vous pourrez me faire la remarque, bien sûr. Mais vous allez voir que c'est écrit dans la parole de Dieu. Le mariage aboutit à la relation sexuelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Une des premières visites que j'ai faites, c'est une dame, parce que le pasteur qui me formait m'avait dit « Tu visites toutes les grand-mères de l'église ?» Bon, j'ai visité toutes les grand-mères de l'église. Et j'étais visiter une grand-mère, et elle me dit « Monsieur Gau, moi, toute ma vie, j'ai marché dans la sainteté. » Et puis j'ai dit « Mais gloire à Dieu !» Voilà. J'ai dit, mais vous savez, moi, la sanctification, ça a été mon mot d'ordre toute ma vie. Bon, par contre, mon mari m'a abandonné au bout de 15 jours de mariage. Ah bon ? Ah oui, parce que moi, la sanctification, c'est quelque chose de sérieux et j'ai pas voulu avoir de relations sexuelles parce que les relations sexuelles, c'est sale. Une chrétienne. Voyez un petit peu, c'est vrai ça. C'est une de mes premières visites. Et j'ai dit, mais si vous vouliez pas avoir de relations physiques, il fallait pas vous marier. Si on veut vivre comme des frères et sœurs, il faut pas se marier dans le couple. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors ce sont des choses qui me permettent à moi de, quand même de réaliser, peut-être que Dieu a permis que je vive ces choses pour pouvoir puiser dans la parole de Dieu ce que nous allons partager. Quand une jeune fille chrétienne qui s'est gardée pure jusqu'au mariage, c'est formidable ça, une jeune fille qui se garde pure jusqu'au mariage et qui va voir sa maman chrétienne pour lui poser une question et qui lui dit « Maman, écoute, je vais me marier bientôt et... » C'est normal quand même de poser des questions. Et comment ça s'est passé avec papa pour la première fois ? Est-ce que c'est normal qu'une jeune fille pose ça quand même ? Et vous savez ce que la mère a répondu ? Oh, tu verras, c'est qu'un mauvais moment a passé. Alors on rit, oui, c'est sûr. On rit, mais vous avouerez quand même que c'est triste. C'est pas certainement ce que Dieu a voulu. Alors les gens confondent, et encore dans notre société française, bien des chrétiens s'imaginent que le péché d'Adam et Ève, ça a été une relation sexuelle. C'est pas vrai ? Oui ou non ? D'ailleurs, on peut le lire. On va voir quel a été le péché d'Adam et Ève. C'est bien la preuve que les gens ne lisent pas la Bible. Il y a des gens, moi je mets souvent, bon, d'autres dénominations. Oui, Adam et Ève, ils ont croqué la pomme. D'ailleurs, est-ce que c'était un pommier ? Vous voyez ? Et on représente la mythologie, la légende, représente cette première relation d'Adam et Ève comme étant un péché. Mais ce n'est pas été ça. Le péché, on va le lire dans Genèse au chapitre 2. On va lire d'abord. C'est important que nous le comprenions, parce qu'on va voir de suite que lorsque Adam a connu Ève, ce n'était pas un péché. Il n'y a pas de péché dans la relation sexuelle, dans le cadre du mariage. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bon, à partir du chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et la mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il la mangea. Voilà. Et à partir de là, il y a eu le péché. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le texte, mais Ce qu'on va lire maintenant, c'est au chapitre 4. Là, on voit la première relation physique dans la Bible. Donc, c'est Adam. Et il nous est présenté, il nous est dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc, quelqu'un qui lit la Bible pour la première fois, il devrait faire la différence entre le fait que le péché, ce n'est pas le fait d'avoir une relation sexuelle avec son conjoint dans le cadre du mariage. Là, on y reviendra si on a le temps. Alors, quelques idées d'abord sur le mariage. Par rapport aux dégâts que j'ai vus, on ne se marie pas pour se marier. Ça vous étonne peut-être, mais il y a des gens qui se marient parce qu'ils imitent les autres. Ma sœur s'est mariée à 22 ans, donc je me marie à 22 ans. Il y a des gens qui se marient pour imiter les autres, parce que les gens vous mettent en boîte. Voilà, j'ai passé la Sainte Catherine, alors on me met en boîte au boulot, on me met en boîte à l'église, alors je vais me marier. Et des gens se marient parce qu'on les met en boîte. Les gens se marient parce qu'on leur met la pression. Et tu n'es pas encore marié, mais tu as vu quel âge t'as. Et des gens, la pression de la société, la pression de la famille, la pression de l'église. Parce que qu'on le veuille ou non, tout groupe exerce une pression. À partir du moment où on est en groupe, il y a une pression. Alors je ne suis pas un psychologue, je suis pasteur, vous le savez, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas un psychiatre. Mais j'ai appris par la parole de Dieu certaines choses. Et c'est ce que l'on va vraiment partager. On ne se marie pas parce qu'être célibataire, c'est avoir une tare que d'être célibataire. Est-ce que c'est une tare que d'être célibataire? Mais il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils sont célibataires, ils sont handicapés. Ce n'est pas une tare d'être célibataire. On peut très bien vivre sa vie et être heureux tout en étant célibataire. Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est quand même une vérité. Il ne faut pas se marier. Alors là, écoutez bien les jeunes. En pensant que le bonheur se trouve exclusivement dans le mariage. Celui qui a institué l'armée de salut a écrit une phrase, je l'ai relevée. Il ne faut pas nous imaginer que pour être heureux, il faut absolument trouver le bonheur dans le mariage. Parce que l'on ne pourra jamais trouver dans le mariage que ce que l'on trouve en Dieu. Et ça, je crois que c'est profondément vrai. Je crois que le mariage doit procurer du bonheur. Je le crois vraiment. Mais il y a un véritable bonheur intérieur que l'on ne trouve que par la foi en Jésus-Christ. On l'a vu, si vous étiez là il y a 15 jours au culte, j'en ai parlé, quand David exprime le bonheur, comment cet homme a connu le bonheur au-delà de toutes les épreuves et de tout ce qu'il a pu rencontrer, il a exprimé le bonheur, on avait vu quatre aspects de la façon dont on trouve le bonheur. Le vrai, vrai, vrai bonheur se trouve en Dieu, vous le savez si vous êtes passé par la conversion. Bien sûr qu'on se marie et on espère être heureux. Monsieur Gisquet a écrit un livre. D'ailleurs, hier, au conseil d'administration, on a pensé l'offrir à tous les jeunes qui le voudraient, qui n'auraient pas les moyens de se le procurer, à tous les jeunes qui se marieraient. Et il a donné comme titre, un petit peu choc, « La famille, source de bonheur, de cauchemar ou d'échec ». Et il est très bien fait, ce livre. Vous le lirez si vous voulez. Parce que quand même, le mariage, on va voir. Le mariage est profondément relié à l'Église. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais dans une famille où le mariage n'est pas honoré, imaginez, 100 familles dans une église, les 100 familles n'honorent pas le mariage. Est-ce que l'église est honorée? Ben non, vous comprenez, je veux dire. C'est beaucoup plus spirituel que ce que l'on pense. On ne peut pas séparer la famille de l'église. Alors, bien sûr, on se marie, je crois, surtout si on veut contribuer au bonheur de l'autre. Il y a des gens, moi j'entends des gens, oh j'aimerais me marier, oh j'aimerais qu'on me rende heureuse. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on se marie parce qu'on veut que quelqu'un nous rende heureux? Ou est-ce qu'on se marie parce qu'on est prêt, on est mûr pour rendre heureux quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, ils veulent être aimés. J'ai besoin d'amour, je veux qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime. Mais est-ce que nous, on est prêt à aimer quelqu'un? C'est une chose de vouloir être aimé. Ça n'est une autre. Et le mariage demande un minimum de maturité. Ça, on n'a pas le temps de le voir ce soir, bien entendu. Mais peut-être qu'on pourra prolonger cette étude, car je crois vraiment, avec les âneries, pour faire vite, que j'entends, je trouve que c'est bien d'en parler. Alors, il y a des choses qui passent pour de l'amour. Surtout aujourd'hui, dans notre société complètement en dégénérescence. Il y a des choses qui passent pour être de l'amour, et les gens appellent ça de l'amour, mais elles ne sont pas de l'amour. L'attirance. L'excitation, la convoitise sexuelle. Regardez avec moi dans 2 Samuel. Je fais une introduction. pour vous amener quand même au sujet, mais pour vous dire que les gens confondent aujourd'hui. Et ça, c'est une des ruses du diable qui veut que nous confondions tout. Et ce que les gens appellent l'amour, souvent, ce n'est pas de l'amour. Regardez avec moi dans 2 Samuel. Regardez cette affaire. Dans 2 Samuel, au chapitre 13, il y a un jeune homme qui est fou amoureux d'une jeune fille. Il est fou amoureux. Il est malade même. Il est tourmenté d'amour. 2 Samuel, chapitre 13. On va lire le verset 1er, le verset 2. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Donc, la Bible présente cette situation comme un jeune homme qui aime une jeune fille. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de l'amour. Oui ou non? Si vous le lisez pour la première fois, donc un jeune homme, il est amoureux. Verset 2. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Vous voyez que... À cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Bon, si vous avez lu la Bible, vous allez voir ce gars, comment il va manigancer, il va tomber sur un ami. Quel ami? Quel ami? Vous savez, vos amis, faites attention, ce n'est pas le thème de ce soir, mais faites attention aux conseils qu'on vous donne. Il va manigancer un truc, de se faire passer pour être malade, etc., etc., et vous allez, on va voir comment ça se termine, parce qu'on n'a pas le temps d'étudier tout. Alors, verset 10. Alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois avec toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferma la porte après lui. Amon, Emma, Tamar. C'est ça l'amour? Non mais, c'est quand même écrit dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ça a été écrit, on aurait pu ne pas être au courant de cette histoire. C'est bien la preuve que Dieu a voulu que l'on sache qu'il y a certaines choses qui sont appelées de l'amour, et en vérité, c'est de la convoitise sexuelle. C'est triste quand même, hein? Quand on voit comment il a fini, cet homme, vous voyez, à cause de son péché, c'est quand même bien triste. Alors ce sont des choses qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui, on ne communique pas. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il y a eu de la convoitise, mais il n'y a pas eu de communication. Et on ne peut pas parler de véritable amour, même dans la relation physique, s'il n'y a pas de communication. Alors vous allez me dire, mais on vit dans un monde de super communication. Vous avez vu tout ce qui est inventé pour communiquer? Plus au courant que moi. C'est la folie, tout ce qu'il y a pour communiquer. On voit tout en direct, vous avez vu ce qui se passe au Japon, on le sait en direct. On le sait de suite. On voit les vidéos de suite, on peut tout savoir, tout et tout de suite. Et pourtant, les gens ne communiquent pas. Il y a une super, technique dans la communication et les gens communiquent de moins en moins. C'est quoi la communication? C'est quoi la communion? Est-ce qu'il ne faut pas que nous communions davantage les uns avec les autres? Vous savez, on peut vivre à côté de quelqu'un, avec quelqu'un, sans communiquer. Il y a des couples qui m'ont dit, mais moi je ne parle pas à ma femme, moi je ne dis rien. Ils dorment ensemble, ils couchent ensemble, et ils n'ont aucune communion. Ce n'est pas parce qu'on couche avec quelqu'un qu'on est en communion avec lui. Il faut apprendre à communiquer, déjà dans l'église. Est-ce que c'est important de communiquer entre frères et sœurs? Entre parents et enfants, ça se développe la communion. C'est quelque chose que l'on devrait comprendre. Cette affaire-là ne serait jamais arrivée s'il y avait eu une communion, une véritable communication. Adam connut Ève, on l'a lu tout à l'heure dans la Genèse. Donc, au premier degré, Dieu quand même, lorsqu'il parle de la première relation physique, il utilise le verbe connaître, alors que souvent dans la Bible, on voit coucher. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu utilise le verbe connaître. Parce que pour aimer quelqu'un, moi je pense qu'il faut le connaître. Vous ne croyez pas? Mais pas connaître que physiquement. Moi je crois que c'est bien de connaître quelqu'un. Vous avez vu Absalom? couche avec moi. Vous savez, une jeune fille intelligente. Il y a des jeunes qui font du chantage avec les filles. Si tu m'aimes, couche avec moi. Et la fille, elle serait intelligente si elle répondait, si tu m'aimes, respecte-moi. Mais là, on est dans un monde complètement fou. Et comme la maturité physique vient avant la maturité spirituelle, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. On doit apprendre à communiquer. Qu'est-ce que l'autre pense ? Parce qu'on peut faire du mal avec les choses que l'homme dit, mais on peut se faire beaucoup de mal avec les choses qu'on ne dit pas. C'est pas vrai ? T'aurais dû me le dire, on verra tout à l'heure. Apprendre à connaître les besoins de l'autre, la sensibilité de l'autre. Bien sûr que l'homme et la femme sont égaux, ça c'est clair. Mais moi je peux vous dire qu'ils sont égaux, mais qu'ils sont différents. Non ? Ça fait 30 ans que je suis marié, je peux vous dire que l'homme est différent de la femme. Croyez-moi, mais complémentaire, et bien sûr, égaux, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que vous savez qu'on est égaux, tous ? Vous savez, on est égaux. Et quand je vois aussi tous les machos qu'il y a dans les églises, hein ? Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Pourquoi certains couples sont allés à la catastrophe ? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Moi je peux vous dire que beaucoup de couples sont allés à la catastrophe, non pas parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, mais parce qu'ils ne communiquent pas. Rebecca et Isaac, est-ce que ce n'est pas un mariage qui a été voulu de Dieu ? Si vous l'avez lu la Bible, vous aimeriez tous, d'ailleurs, vous marier de cette façon-là. La façon dont Dieu a dirigé pour qu'un couple se rencontre et se marie. Et pourtant, je peux vous dire qu'entre Isaac et Rebecca, la communication, on aurait pu mettre même en question la volonté de Dieu. Franchement, il n'y aurait pas l'histoire de leur rencontre. On arriverait directement dans l'affaire du vol de la bénédiction de Jacob et d'Ésaü. Franchement, on verrait le méli-mélo qu'il y a dans ce couple. On pourrait dire, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est sûr. Tu n'as pas vu comment ils s'attrapent ? Tu n'as pas vu la jalousie et tout ce qu'il y a dans ce couple ? C'est la catastrophe dans cette famille. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de communication. Est-ce que nous comprenons que c'est important de communiquer ? Moi, je vois, ah non, moi je ne dis plus rien à mon mari. Ah non, moi je ne dis plus rien à ma femme. On entend ça. On entend que c'est dommage. Que c'est dommage d'être chrétien et de ne pas communiquer avec la personne que le Seigneur nous a donnée. Ça se travaille. Alors la sexualité, c'est quelque chose de simple. Et en même temps, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué parce que moi, avec tout ce que j'entends, et plus j'entends, je me rends compte que ce n'est pas facile par rapport à l'éducation qu'on a eue. Vous en avez parlé, vous, lorsque vous étiez enfant avec vos parents ? C'est pas facile, hein ? Franchement, c'est pas évident. Nous, on n'en a jamais on a parlé de ça. On se serait pris une gifle pour... Si j'avais posé une question, j'aurais pris une gifle. Ça, je connaissais mon père. Ouais, je sais qu'il l'aurait fait. Il est toujours vivant, il aura l'enregistrement. Par rapport à la religion, ça aussi. Vous voyez, quand on considère que la sexualité, c'est sale. Vous voyez ? La culture, la morale... etc., il y aurait beaucoup de choses à partager. Mais peut-être on le fera, parce que c'est quand même un sujet qui est profondément sérieux. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne sur la sexualité ? Alors quand on est chrétien, on n'ose pas aborder ce sujet. Moi je me souviens, quand je me suis converti, j'aurais aimé poser des questions au pasteur, bien sûr, je n'osais pas. Parce que quand on se convertit, on change de mentalité, et on ne voit plus les choses de la même manière, quand on est d'accord avec moi. Dès qu'on se convertit, quand même... On a le souci de dire, mais enfin, comment je dois me comporter, comment je dois faire, etc. Il y a des questions que l'on se pose. Comme l'autre dernière fois, je vous disais, un garçon qui se convertissait et qui me posait la question, mais est-ce qu'on peut regarder un film érotique ? Je dis non. Mais non, je suis contre les films pornographiques, mais les films érotiques. Lui, il faisait une grosse différence entre ce qui était érotique et ce qui était pornographique, parce que ce n'est pas les mêmes prises de vue, excusez-moi. Alors je dis, écoutez, moi je pense qu'un chrétien, quand il se convertit, il ne regarde ni l'un ni l'autre. C'est écrit, hein, l'impudicité, etc., etc. Alors, il y a une bonne sexualité, celle qui est vécue dans le cadre du mariage. Et je le répète, la sexualité n'est pas un péché. Beaucoup de chrétiens veulent tellement être spirituels qu'ils amènent tout au niveau charnel. Mais il ne faut pas oublier... qu'il y a l'humain, tout ce qui est humain, et ce qui est charnel. Et quand même, c'est pas, on n'a pas à avoir honte d'être des êtres humains. Quand même, vous comprenez ce que je veux dire ? On est des hommes, nous sommes des hommes.
des femmes.
Alors, s'il faut apprendre à nous séparer de ce qui est charnel, il faut comprendre qu'il y a tout ce qui est humain dans la vie sociale et dans la vie de tous les jours. C'est Dieu quand même qui a créé la sexualité, oui ou non? Est-ce que c'est lui? Bon. Alors, il a créé l'homme, il a créé la sexualité, il a créé le désir, le plaisir. Dieu a créé la sexualité, pourquoi? L'autre jour, on parlait avec une chrétienne, enfin une chrétienne, oui, qui dans une église a entendu un serviteur de Dieu dire que la sexualité ne devait être employée, excusez-moi le terme, que pour la procréation. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. C'est pour vous dire les âneries que l'on peut entendre aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le premier mot qui a été utilisé pour parler de la première relation physique, c'est le mot « connaître ». Parce que le mot « connaître » indique plusieurs choses. Si vous regardez dans un dictionnaire, vous verrez que le mot « connaître », ça veut dire « s'engager entièrement ». Lorsque Dieu donne un homme à une femme ou vice-versa, l'on doit comprendre ce que ça veut dire « connaître ». Il y a plus que la relation, il y a le premier degré, bien sûr, on va le voir avec le cantique des cantiques, mais il y a le fait de se donner. C'est pour ça que je dis, moi, tous les gens qui sont égoïstes, ne vous mariez pas. Moi, quand quelqu'un me dit « oui, moi, me donner pour les autres », eh bien, ne vous mariez pas. Vous ne pouvez pas être, concevoir de vous marier si vous êtes égoïste. Parce que quand on se marie, je crois qu'on doit se donner à l'autre. Oui ou non? On doit se donner. C'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs se remettre en question. Il dit, mais est-ce que j'aime me donner à mon épouse? Est-ce que je suis là, je m'engage entièrement? Est-ce que je donne toute ma personne? Parce que quand même, il y a des textes dans la Bible où il est demandé aux hommes d'aimer leur femme, au singulier, comme Christ a aimé l'Église. Alors je peux vous dire qu'une femme qui est aimée par un mari de ce type-là, elle n'aura certainement pas beaucoup de mal à se soumettre. Et puis la soumission, c'est autre chose que l'esclavagisme. Parce que là aussi, il n'est jamais dit « femme, soyez esclave ». Alors ce sont tout un tas de choses que je mets en pêle-mêle un petit peu maintenant, parce que c'est un sujet qui devrait quand même nous intéresser. C'est vrai que moi, j'ai rarement, presque jamais entendu une relation sur ce qu'on va voir maintenant. Mais c'est écrit. Le Seigneur l'a dit. Le mot « connaître », c'est également « appartenir pleinement à l'objet de sa connaissance ». Vous voyez comme quoi Dieu veut que l'on se connaisse vraiment avec son conjoint. Il a dit, le Seigneur, ils deviendront une seule chair. Alors, il y a des choses que la Bible condamne au niveau de la sexualité. Les relations sexuelles avec les proches parents, Lévitique 18. Je ne vais pas vous donner toutes les références, mais pour vous indiquer qu'il y a des choses que Dieu condamne. Les relations sexuelles pendant la période des règles. Ça a été prouvé par des scientifiques que cela provoque des maladies infectieuses. Ça a été prouvé. Mais de toute façon, écoutez-moi, tout ce que Dieu dit est intelligent. Tout ce que Dieu dit est sage. Tous les commandements de Dieu sont pour nous donner le bonheur. Et si vous avez pris l'habitude, la mauvaise habitude, de contester les commandements de Dieu, réfléchissez. Tout ce que Dieu dit est intelligent. Tout. Vous le croyez? Tous les commandements de Dieu sont purs. La Bible condamne l'homosexualité. Alors, c'est en train de rentrer, ça. Ça devient même du BCBG. Ça, c'est très apprécié, c'est chic presque aujourd'hui. C'est une abomination. Vous lirez Romains chapitre 1er, mais on peut le lire quand même. Parce que quand je vois aujourd'hui ce que j'entends, enfin quand j'entends ce que j'entends plutôt. Romains 1, 26. Regardez avec moi. Romains 1, c'est quand même impressionnant. Et c'est accepté. Croyez-moi, moi j'ai entendu une émission de télévision sur la religion où ils ont accepté, une dénomination accepte actuellement que les homosexuels prennent la Sainte-Seine dans les églises. C'est vrai ça, je l'ai entendu, c'était de mes oreilles, on ne me l'a pas dit. Il y a des fois on me le dit, mais regardez, Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous lirez le chapitre en entier, vous verrez. Voilà, ça ce sont des choses que Dieu condamne. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, c'est une abomination. La Bible condamne les relations sexuelles avec les animaux. Et je peux vous dire que ça existe. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, c'est... Moi, il y a un homme qui s'est confié à moi il n'y a pas longtemps. Il m'a expliqué un truc. Et c'est vrai que dans la Bible, ce sont des choses qui sont purement interdites. La Bible condamne la prostitution. C'est interdit la prostitution. Autant des hommes que des femmes, bien entendu. La Bible condamne l'adultère, l'impudicité, la fornication. Alors, il y a des gens qui ne savent pas. Alors, l'adultère, c'est quelqu'un de marié qui a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Et l'impudicité et la fornication, c'est des gens qui ne sont pas mariés et qui ont des relations sexuelles avec quelqu'un, bien sûr. Voilà. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Tout ça, ça doit être expliqué. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire que quand on est paxé, on est marié, voyez, mais c'est pareil, Dieu le voit. Moi, souvent, on me dit ça. Dieu le voit. Oui, Dieu le voit. Dieu le voit. C'est comme quand quelqu'un qui manque, il dit, mais oui, mais Dieu le voit. Il voit mon cœur. Mais oui, il voit surtout votre mensonge et votre péché. Vous voyez, les gens, aujourd'hui, on a tout sentimentalisé. Tout. Alors, ça fait que ça devient une espèce de passe-partout. Vous voyez, on banalise tout. Mais surtout le péché. Alors, de notre côté, vous voyez, la Bible condamne certaines choses, et de l'autre côté, la Bible exalte la sexualité. C'est ce que je veux que vous compreniez. Regardez quelques textes. Deutéronome 24, pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'important, même pour Dieu. Deutéronome 24, regardez ce que Dieu demandait. Vous savez que le peuple d'Israël était une armée. Et combien, même aujourd'hui encore, combien Israël a besoin d'être super bien armé. Vous allez voir dans quelques mois ou dans quelques années. Deutéronome chapitre 24, regardez ce que Dieu dit à quelqu'un qui vient de se marier. Je le répète, c'était important qu'il soit super armé. Chaque soldat comptait dans l'armée des Hébreux. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an. Et la suite dit, et il réjouira la femme qu'il a prise. Donc, sous la loi déjà, la première année de vie conjugale, c'était plus important que de faire l'armée. Vous le voyez comme ça? Est-ce que vous le voyez comme moi? Voyez, c'est pour vous dire combien c'est quelque chose d'important et que ça doit combler le couple. Proverbe chapitre 5, verset 15. Proverbe chapitre 5. Proverbe. Chapitre 5, verset 15. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup... C'est très poétique la Bible. Vous savez qu'il y a une culture orientale dans la Bible. Proverbe chapitre 5, verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangères avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes. Dans notre version, il est dit de ses seins. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Voyez. Et c'est vrai que les traductions, parfois, on va le voir dans le Cantique des Cantiques, moi j'ai regardé deux ou trois traductions, on va voir que des fois, il y a eu une espèce de gêne, de pudeur pour traduire certains mots. En préparant, en pensant à ça cet après-midi, je ne sais pas si je vais vous choquer, mais c'est pour vous dire combien... Mais je l'ai à cœur de vous le dire. C'est pour vous expliquer quelque chose. Je regardais cet après-midi la définition du soutien-gorge. Écoutez bien. Je me suis dit, mais pourquoi on l'appelait soutien-gorge? Ça ne tient pas à la gorge. J'ai regardé le dictionnaire. Écoutez-moi bien. Et j'ai regardé, c'est par pudeur. On n'a pas osé appeler un porte-sein, un porte-poitrine, j'en sais rien, un soutien-gorge. C'est par rapport à la pudeur. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a certains mots, c'est vrai, et je pense que c'est bien d'être pudique, et restez-le. Parce qu'aujourd'hui, justement, on est tombé dans une vulgarité. C'est lamentable. Mais on voit dans les traductions, vous allez voir dans le Cantique des Cantiques, si vous avez la tobe. Quelqu'un à la tobe ce soir, la traduction œcuménique? Et c'est des traductions exactes, il faut le vérifier, croyez-moi, c'est important. Vous voyez, là, c'est très poétique. Hein? Soit en tout temps enivré de ses charmes. On comprend quand même ce que ça veut dire, de ne pas embrasser le sein d'une inconnue, mais celui de sa femme. Ce sont des choses qui sont écrites, pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de mal. Regardez un petit peu plus loin, dans l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il est dit? Ecclésiaste... « Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Rien qu'un texte comme celui qu'on vient de lire dans le livre des Proverbes nous montre à lui tout seul que la relation sexuelle est belle et qu'elle est voulue de Dieu. Ecclésiaste 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie, de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant les jours de ta vanité, etc. C'est là ta part, etc. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Donc c'est écrit. Pourquoi Dieu l'a écrit? Pourquoi Dieu a voulu que ce soit écrit? Parce qu'on a besoin de savoir. Alors maintenant, on va voir le Cantique des Cantiques. Alors c'est vrai que le Cantique des Cantiques, il y a deux niveaux de compréhension. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le Cantique des Cantiques, qui explique, si vous voulez, le sens allégorique, le sens symbolique, qui nous parle de Jésus et de l'Église. Alors, c'est vrai qu'il y a un message extraordinaire dans le Cantique des Cantiques qui parle de l'amour que Dieu a pour le corps de Christ, pour l'Église, que Jésus a pour l'Église, mais au premier sens, parce qu'il y a quand même un premier sens, qu'est-ce que ce cantique fait? Vous l'avez lu, le Cantique des Cantiques? Vous savez qu'il a été, à une époque, on a interdit de le lire. Mais vous savez ce que je vais vous dire maintenant? J'aurais prêché ça il y a 2-3 siècles, je méritais le bûcher. C'est sérieux. Il y a, dans ce cantique, qui est au milieu de la Bible, il y a un secret, qui parle justement de cette relation physique, entre un homme et une femme. Alors dans ce livre, mais vous pouvez le lire, vous savez, dans un esprit saint. Seigneur, mais quand même mon couple, mon foyer, c'est important de réussir sa vie de couple, non? Franchement, est-ce que ce n'est pas important? Vous ne répondez pas? Est-ce que ce n'est pas important? Je continue pas. Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que notre couple soit heureux? Alors dans ce livre, on trouve le désir. Et je vais vous dire, c'est par rapport au premier verset que je me suis dit, il faut le faire. Parce qu'une jeune fille est venue me trouver derrière moi, elle me dit, vous savez, monsieur Gault, c'est pas bien qu'une femme désire son mari. Ah bon? Et vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu prononce les conséquences du péché. Et il dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Et donc cette femme a interprété ce verset comme quoi c'était un péché qu'un homme désire une femme ou vice-versa. Mais en vérité, ça veut dire que la femme voudra se masculiniser. J'abrège. Ça veut dire que la femme, comme on le voit de plus en plus, veut prendre l'autorité sur l'homme. Vous me suivez? C'est ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on est égaux, qu'on est complémentaires, etc. Mais Dieu a mis quand même l'homme comme le chef, c'est-à-dire le responsable, celui qui a le devoir d'eux. Et la femme, lorsqu'il est dit « tes désirs se porteront vers ton mari », ça veut dire ce qui est en train de se passer, c'est que les femmes veulent prendre le pouvoir. Et ça, écoutez, vous le discuterez avec Dieu si vous voulez, mais ce n'est pas biblique. Et dans quelques années d'ici, on verra dans nos églises, écoutez bien, mais pas dans celle où je serai, dans nos églises, des femmes qui prendront le contrôle des assemblées. On en reparlera si Jésus n'est pas revenu. Donc dans le livre du Cantique des Cantiques, il y a le désir exprimé, les préludes amoureux, vous le lirez, il faut quand même en parler. Pourquoi? Vous verrez. L'union intime et puis la paix qui découle de l'union physique. Alors tout cela est imagé, mais c'est écrit. C'est quand même écrit, c'est dans le canon des Écritures. C'est pas nous qu'on l'a rajouté, c'est quand même Dieu qui a voulu que le Cantique des Cantiques soit dans le canon des Écritures. C'est un livre inspiré. Vous êtes d'accord? C'est un livre inspiré ou non, le Cantique des Cantiques? Mais c'est quand même ça qu'il faut, parce que s'il n'est pas inspiré, il faut l'enlever. Mais s'il est inspiré, ce qui est écrit est pour nous. Alors regardez comment ça commence. Chapitre 1er, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Bon, je veux bien spiritualiser, moi, voyez. Moi, je veux bien tout spiritualiser. C'est mon devoir. Mais quand même, il faut bien chercher, quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non?
Vous voulez que je cherche la spiritualité entre l'Église? Moi, je veux bien. Et je crois que ce serait bien de faire une étude sur le cantique des cantiques. Mais moi, il me semble que c'est clair. Dans ma tête à moi, de français moyen, je trouve que c'est clair. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'exprimer le désir. Elle exprime. C'est pas dit qu'une fois. Chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 5, il y a toujours le désir. « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Mais ce n'est pas du tout pareil que Absalom, vous voyez la différence entre un désir vrai et pris une convoitise sexuelle. C'est là qu'il faut comprendre, c'est là qu'il faut faire la différence. Mais je crois que Dieu nous a donné le Saint-Esprit quand même. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour réfléchir à ces choses. Ce désir, il est là, il est exprimé, ça nous montre l'importance de parler. Les jeunes, apprenez à parler. Moi, je discute avec des jeunes qui veulent se marier. Ah, monsieur Gou, on prie. Eh, c'est bien, priez. On prie, monsieur Gou, vous savez, on prie. Quand on se voit, on prie, on ne discute pas beaucoup, mais on prie. Mais il n'y a pas que la prière. Et moi, je vous assure, des fois, je suis inquiet. Ce n'est pas parce que l'on passerait que du temps à prier qu'on est spirituel. Les gens ne discutent pas. Écoutez, moi, par la grâce de Dieu, je vous donne cet exemple parce que ça s'est quand même passé ici. Je vais vous donner peut-être des exemples, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais de situations qui ne se sont pas passées ici. Mais là, je me souviens de ces deux jeunes, ils ne faisaient que prier. Et puis, ils priaient, et en plus, ils ont été amenés à accepter le fait que s'ils devaient se marier, c'était par rapport à la révélation d'une chrétienne. Et ils étaient malheureux comme des pierres, mais ils priaient. Et je leur ai dit, mais vous vous aimez? Ils ne répondaient pas. On prie, monsieur. J'ai dit, mais écoutez, mais vous ne discutez pas quand même? Si vous voulez avoir des enfants, non, que la volonté de Dieu soit faite. Mais pour le travail, tout ça, que la volonté de Dieu soit faite. J'ai dit, écoutez, mais est-ce que vous avez envie de vous embrasser? Ah, monsieur, non. Non, monsieur Gou, on prie. J'ai dit, écoutez-moi, là, je vais faire vite. Là. Vous allez passer 40 ans ou 50 ans dans le même lit et vous n'avez pas envie de vous embrasser avant le mariage. Et ça, ils ont dit, alors... Mais parce que, vous voyez, ils avaient tellement spiritualisé. Et je crois qu'il faut prier dans la famille. J'espère que vous aimerez prier avec le conjoint que Dieu vous donnera. Mais je crois qu'il faut exprimer les besoins. Si elle l'exprime, et puis regardez, non seulement le désir est exprimé, mais au chapitre 7, regardez au chapitre 7, verset 11. Alors, elle parle, mais là, elle parle des désirs à lui. Elle ne parle pas de ses désirs à elle, elle parle des désirs, elle connaît, vous voyez, je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Donc, elle connaît les désirs de son mari. Vous le comprenez comme moi? Est-ce que vous le comprenez comme... Vous voyez, elle exprime à son mari ses désirs, mais elle connaît les désirs de son mari. Et c'est là que nous voyons combien il faut discuter. Moi, les gens me disent, non, je ne dis rien à ma femme, je le répète. Non, je ne dis rien à mon mari. Il n'a qu'à deviner. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Il devrait savoir. Je vais vous dire, quand on est un homme, on a du mal à détecter tout, hein. Et à discerner ce que les femmes veulent. Parce qu'au bout de 30 ans, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle pense? Mais je dis ça parce qu'il faut exprimer les désirs. Tu aurais pu le deviner. Tu me l'as dit combien de fois ça en 30 ans, hein? 4 ou 5 fois, plusieurs fois. Tu aurais pu le deviner. Mais je crois que, et c'est vrai que quand on aime, mais voilà, dans le royaume de Dieu, j'espère qu'il n'y a pas de devin, premièrement. Mais vous comprenez bien qu'il faut exprimer les désirs. Ça me ferait plaisir que tu tiennes compte de ça. Moi, j'ai vu des couples, après leur divorce, qui, hélas, constataient qu'ils n'avaient exprimé rien du tout. Et s'ils en avaient parlé, je crois que ça aurait réglé bien des problèmes. Elle connaît les désirs. Ses désirs se portent vers moi. Et ce sont des désirs physiques. Je répète, je suis bien spiritualisé, mais pour moi, c'est d'une clarté pas possible. Chapitre 2, verset 6. On a parlé des désirs. Chapitre 2, verset 6. Alors, je ne sais pas là aussi comment vous allez spiritualiser l'affaire, mais quand même, 2, verset 6. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ce texte, que vous le vouliez ou non, nous parle des caresses. Alors,
Pour les hommes, ce n'est pas important. C'est moins important. Mais c'est quand même exprimé. On ne fonctionne pas de la même manière, et c'est pour ça qu'il faut parler. Et je crois qu'un homme, il ne doit pas se conduire comme un sauvage. Un homme, il doit être attentif. Et pour les épouses, normalement, les caresses, ça doit être quelque chose d'important. Et il faut en tenir compte. C'est quand même écrit, c'est pas écrit qu'une fois. Elle le répète, chapitre 8, verset 3. Moi, je pars quand même du principe où si c'est réécrit, c'est que c'est pas ponctuel. Vous voyez, chapitre 8, verset 3. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Vous voyez, c'est un désir également d'être caressé. Bon, quand même, vous voyez, je m'arrête là. Parce que je n'ai pas intérêt à aller plus loin, parce qu'il faut que Dieu bénisse ce qui est dit. Mais c'est quand même exprimé. Dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, vous les lirez, mais vous les lirez en priant, en disant « Seigneur, éclaire-moi ». Vous verrez que les deux se connaissent très très bien physiquement. Regardez chapitre 4, versets 4 à 5. Il y a quand même toute la notion de la nudité qui ressort. Dans le cadre du couple, c'est pas malsain. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous tes boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fangs, comme des jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lys. On peut lire chapitre 7, versets 7 à 10. Voyez, c'est quand même clair. Là aussi, on ne peut pas faire plus clair. Bien sûr, c'est une image orientale. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent. Bon, mais écoutez-moi. Dans ce couple, si vous lirez les deux chapitres, et vous verrez qu'il n'y a pas de honte par rapport à la nudité. Moi, j'ai connu des personnes qui m'ont exprimé leur douleur parce que l'épouse, au nom de la sainteté, ne voulait jamais, 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 jamais dévoiler sa nudité à son mari. Et ça crée des problèmes. Et quand même, quand on lit les Cantiques des Cantiques, écoutez, vous le relirez après cet éclairage et vous verrez qu'il n'y a pas de honte dans la nudité. Mais bien sûr, je le répète, dans le couple, marié, chrétien. Alors voyez, Dieu exalte la sexualité dans le couple. Et c'est le monde qui avilit tout cela. Mais quand même, vous le relirez en disant, Seigneur, tu vois, je veux être le mari que tu veux que je sois. Je veux être l'épouse que tu veux que je sois. Il n'y a pas de honte à la nudité dans la Bible, dans le couple, dans le cadre du mariage selon Dieu. Au chapitre 4, verset 10, Salomon parle des parfums qui se dégagent du corps de la Sulamite. C'est écrit, chapitre 4, verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, ton amour, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Moi, je l'ai appris, parce que quand on est pasteur, on est confronté à tellement de situations, il y a des gens pour qui les parfums, c'est très très important. Et ça nous enseigne peut-être aussi combien il faut respecter les attentes de l'autre. Voyez. Chapitre 7, verset 3. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Oui. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys, etc. Il continue sur la nudité. Bien sûr qu'on peut spiritualiser. On peut spiritualiser, vous êtes d'accord? Tant qu'on voudra. Mais c'est écrit comme ça. Et je crois très humblement. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'a jamais ça dans les églises, parce que ce n'est pas évident quand même, il faut dire la vérité. Mais c'est quand même écrit. Et Dieu a voulu que ça soit dans le canon des Écritures. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au chapitre 4, verset 16, elle l'appelle de ses désirs. Vous voyez ? Alors ça, ce verset, il a vraiment été spiritualisé, ça je le sais. Mais quand même, voyez ? Lève-toi, Aquilon, vent d'autant, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Et vous lirez la suite et vous verrez qu'il y a cette paix qu'il y a dans la relation physique. C'est quand même extraordinaire de voir ce que Dieu veut. Et c'est terrible de voir ce que le diable a réussi à faire. ça devrait être quelque chose de tellement beau, de tellement respecté. C'est vrai que c'est quand même enseigné. Et alors qu'on vit dans un monde de malades, dans un monde de folie, je crois que l'Église devrait veiller à ces choses. Les chrétiens devraient veiller à ces choses. Je n'ai pas pris le temps d'expliquer tout ça, la convoitise sexuelle et tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais quand on voit le nombre de malades et d'obsédés, alors qu'il y a quand même cet épanouissement. Voyez chapitre 7, verset 3. Là, on va plus loin. Voyez, je l'ai lu. Ton sein est une coupe arrondie. Alors, dans le français courant, qu'est-ce que quelqu'un a le français courant? Oui, qu'est-ce que vous avez? Vous allez voir. Chapitre 7, verset 3. Enfin, je vous le lis. Hein. C'est écrit. Vous avez la tombe aussi, puisque vous avez l'ordinateur. Mais regardez, vous allez voir, il va confirmer. La français courant, il est dit tombe à ventre. Regardez si je ne me suis pas trompé. Et vous regarderez dans la tombe, alors là c'est écrit, ton pubis est une coupe arrondie. C'est bien ça? Regardez la tombe, la traduction œcuménique de la Bible. Ton pubis, le pubis, écoutez, c'est le sexe. Vous voyez? Ce n'est pas déplacé. C'est le monde qui a tout perverti. C'est le monde qui a perverti. Et dans la tombe? Alors c'est une autre version alors. Oui. C'est la vérité. Et là, si vous lisez la fin du chapitre 7, versets 8 à 10 par exemple, on voit l'apaisement. Parce que je crois quand même, est-ce qu'on peut le dire, oui ou non, là, quand même la relation sexuelle est aussi un défoulement. Mais dans le bon sens du mot. Et on voit, quand vous lisez ça, on voit qu'il y a un apaisement qui est le résultat d'une union physique. Alors dans le Nouveau Testament, on va lire un texte qui indique quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 7. Il y avait des problèmes et voyez, les Corinthiens, quand même c'est étonnant, mais les Corinthiens ont posé des questions à l'apôtre Paul par rapport aux problèmes qu'ils avaient dans leur relation sexuelle, dans leur couple. Puisque, regardez, 1 Corinthiens chapitre 7, ils ont posé des questions. Mais voyez, comme quoi il faut poser des questions. Bien sûr, pas n'importe comment, s'il vous plaît. Prenez le temps de réfléchir, etc. Mais les Corinthiens ont écrit à l'apôtre Paul. Ils avaient des difficultés dans le cadre des relations physiques dans leur couple. C'était des chrétiens. Regardez, la preuve. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, voyez, il leur avait écrit, donc il leur avait posé des questions. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Alors moi j'ai souligné le verset d'un commun accord. Parce que je crois que ce n'est pas que dans le cadre de la vie sexuelle. Je pense que c'est valable dans tous les domaines qu'on devrait faire les choses d'un commun accord. Dépenser de l'argent dans un couple, ça fait des histoires terribles. La femme, elle rentre des magasins. « Ah, j'ai acheté ça. Ça coûtait combien ? 300 euros. Ah, tu ne m'en as pas parlé ?» Moi, il me semble qu'on devrait faire les choses, toutes les choses, d'un commun accord dans le couple. C'est pas vrai ? D'un commun accord. Et voyez, pour être d'un commun accord, c'est bien la preuve qu'il faut en parler. Et il faut parler. Il faut exprimer ses désirs, il faut exprimer ses peines, il faut exprimer ce qu'il y a là, parce que je le répète, on ne peut pas le deviner. Mais voyez, alors c'est présenté un peu là-bas, c'est vrai que c'est présenté comme un devoir. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Bon. Enfin, si la relation physique c'est qu'un devoir, c'est quand même inquiétant. Mais c'est quand même un devoir aussi. Mais j'espère que pour les chrétiens qui s'aiment, ce n'est pas un devoir. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est quand même quelque chose, ça c'est bien triste si c'est qu'un devoir. Donc ce texte dit que l'homme doit à sa femme l'acte sexuel, que la femme doit à son mari l'acte sexuel, et il est écrit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Voilà, c'est écrit. Vous pouvez l'interpréter comme vous voudrez là aussi. Voilà, mais il faut, je crois, veiller, de la même manière qu'il faut veiller sur son âme, sur l'Église, pour ne pas être, voyez, loin de Dieu,
Je pense qu'il faut faire attention. Je crois qu'il y a des ennemis dans la vie, même dans la vie sexuelle. Vous voyez, trop de temps, trop de travail. Il y a des gens, ils ont planté leur foyer. Des hommes, ils sont jamais à la maison. Ils ont voulu gagner de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ils sont partis le matin à 5 heures, ils rentrent à 11 heures. Et voilà, et leur foyer a été détruit. Trop de travail, trop de soucis, etc. Vous savez, je crois qu'il y a un temps pour tout. Je crois même que c'est écrit dans un livre qu'on aime beaucoup. Il y a un temps, Ecclésiaste 3:5, pour embrasser. C'est écrit ? Et il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Il y a un temps pour tout. Et j'aimerais quand même ajouter que l'amour, c'est avant tout une affaire de cœur. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est avant tout une affaire de cœur. Donc Paul donne des instructions. Voyez, la façon dont un homme et une femme doivent se comporter l'un envers l'autre. Alors il y a d'autres textes, on n'a pas le temps parce que je vois que le retourne. Mais on y reviendra si c'est nécessaire. Un homme, il doit surtout donner de la considération à sa femme. Je répète, c'est une affaire de cœur l'amour. C'est pas qu'une affaire de sexualité. Alors ce texte nous enseigne beaucoup quand même. C'est vrai, que vous le vouliez ou non. Ce texte nous en dit beaucoup. Que ça veut dire que on n'a pas toujours envie en même temps. C'est pas vrai? Comment vous le comprenez? Non? Dites franchement, c'est comme ça. Hein? Et que quand quelqu'un n'a pas envie, le conjoint doit accepter de lui donner ce qu'elle attend. Ça éviterait certainement bien des problèmes dans bien des couples. À des moments, c'est l'inverse. C'est le mari qui va rechercher l'amour, la femme qui n'a pas envie, etc., etc. Mais qu'il doit y avoir quand même cette soumission. Là aussi, je crois que bien des couples se seraient gardés si c'était écouté davantage et s'ils avaient respecté le désir de l'autre. Bien sûr que l'idéal, ce serait que le mari et la femme ressentent le même désir en même temps. Mais enfin, ce texte nous montre qu'on ne doit pas forcer la personne, qu'on doit savoir aussi attendre, hein, qu'il ne faut pas se soumettre à contre-cœur, qu'il faut faire les choses avec intelligence, voyez. Je pense qu'il faut faire attention. Vous savez, on rit avec ces choses. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle jamais. C'est peut-être, je ne sais pas moi. C'est vrai qu'il faut être pudique. Moi, je vous avoue que j'ai hésité, mais je me suis dit, c'est dans la Bible, il faut le dire. Peut-être que je l'ai mal dit, excusez-moi si je l'ai mal dit. Mais ce texte nous enseigne aussi que pour des raisons spirituelles, pour chercher Dieu, on peut s'abstenir pendant quelques jours, voyez. Pour prier. C'est vrai? Oui. Hein? Pas trop longtemps, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voyez. Et Paul explique dans ce verset qu'un mari ou une femme risque de faire entrer son conjoint en tentation s'il refuse de se donner donc à sa partenaire. Et là aussi, moi j'ai vu des couples où le mari a trompé sa femme. Mais parce que la femme s'est refusée et 15 jours et un mois et deux mois. Alors c'est vrai que c'est le mari qui avait tort. Qui c'est qui avait tort? C'est délicat, ça c'est un débat. Qui avait tort? S'il y a écrit quand même que c'est une source de tentation. En tous les cas, là je pèse mes mots, c'est pour ça quand même qu'il faut faire attention. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent « oui, mon mari m'a trompé ». Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a tort. Il a toujours tort. Et vice-versa. Mais quand même, il y a quand même des dangers. Et que Dieu nous donne de l'intelligence. Parce que quand même, je crois que le couple, quand on regarde bien, c'est Dieu qui veut le mariage. Et moi, vous savez, quand j'ai fait cette étude, j'ai pensé à plusieurs choses. Mais j'ai surtout pensé qu'elle est belle l'Église, où les foyers sont forts. C'est pas vrai? Où les foyers sont unis. Où les foyers sont heureux, où les enfants voient un papa et une maman qui s'aiment. Vous ne croyez pas? C'est pas ça l'Église? Parce que vous savez, si on est spirituel à l'Église, alléluia, alléluia, et qu'à la maison, c'est comme on dit, la soupe de boudin. Moi, je crois que, vous voyez, ce cantique des cantiques, moi, j'ai hésité, je vous avoue, mais je me suis dit, c'est écrit. Est-ce que je vais faire une erreur si j'explique ce qui est écrit? Non. Et bien sûr, on peut même aller plus loin, parce que c'est écrit. Mais il vous faut lire le livre des Cantiques. Il y a encore des choses encore plus profondes. Mais ce que moi je voudrais, c'est que
si Jésus revient bientôt, qu'il trouve une église belle, avec des foyers qui s'aiment. Ce n'est pas important, ça? Quand on voit aujourd'hui, même dans l'église, des fois, comment certains hommes parlent de leurs femmes. Hé, la grosse! Ne riez pas, ne riez pas. Et alors? Et alors, si elle a pris 10 kilos, et alors? Est-ce que c'est une raison pour la mépriser? Quand on s'est marié, quand même. Vous ne croyez pas? Vous croyez que c'est bien de parler? Moi, je n'aime pas les blagues comme ça. Mais je le fais ressortir parce que ça arrive des fois. Ça peut arriver qu'à cause d'une maladie, à cause d'un traitement, mais une femme a eu des difficultés physiques. Et quand on voit ça dans le monde, des gens qui blaguent avec la sexualité, bon, on ferait pareil. Mais quand même, quand on est chrétien, moi je crois qu'un homme, il respecte sa femme. Et une femme, elle respecte son mari. Demandez à Madame Régnier si elle n'aimerait pas tenir son mari dans la main. Tu dois souvent être écœuré quand tu vois des couples qui se chipotent pour... Voilà. Vous savez que notre sœur, Madame Régnier, je peux le dire, a son mari dans le coma depuis 11 ans. Et quand elle voit des couples se chipoter pour des bricoles, elle ne le supporte pas. Et je crois qu'on devrait réaliser, pour les jeunes, quand je vois tous les jeunes qui sont dans l'église, combien pour moi c'est important qu'avec mon épouse on rende un bon témoignage. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais je crois que c'est beau le couple, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Moi je suis heureux quand je vois des couples qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Combien vous avez, monsieur de Dieu, de mariage? 53 ans. Ben, je le dis, c'est vrai, le témoignage que vous rendez avec votre femme. Elle est là, votre femme? Elle est là, madame de Dieu? Elle n'est pas là, non? Si elle est là, elle veut nous dire quelque chose? Non. Mais c'est pas beau. Franchement, les jeunes, c'est pas beau de voir des couples comme monsieur et madame de Dieu, 53 ans de mariage, qui rendent un bon témoignage. Écoutez pas, monsieur de Dieu, n'écoutez rien. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça l'église. Et moi, je suis convaincu que si les couples sont bénis, l'église sera bénie. C'est pour ça que cette étude, cette exhortation, j'ai voulu la faire consciencieusement. Il y a des centaines, plus j'étudie, plus je me rends compte qu'il y a des centaines de choses à dire. Mais je crois que dans le couple, on devrait commencer à communiquer, à parler. Peut-être vous connaissez des couples avec qui vous pourriez parler sainement. Parce que je crois qu'on peut en parler sainement entre couples. Oui ou non? Peut-être que vous avez des questions à poser, peut-être que ce n'est pas le moment, mais mettez-les dans la boîte, dans un tronc, et je pourrais repréparer une prédication, ou alors on peut faire une soirée exprès, parce que quand même, moi je me dis, si vraiment on est conscient. Moi vous savez, quand j'ai lu le Cantique des Cantiques, on m'avait présenté moi la spiritualité du Cantique des Cantiques. Mais moi je vous avoue que moi je l'ai lu comme un homme, au premier degré, et je me suis dit quand même, il y a des choses que Dieu a voulu nous faire comprendre, sur la beauté, de la vie sexuelle dans le couple. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, les jeunes qui n'êtes pas mariés, à réfléchir, parce que c'est beau de s'aimer. C'est magnifique d'aimer sa femme, je le crois vraiment. Et de se dire, voilà, on va construire quelque chose. C'est vrai que Dieu est le réparateur des brèches. Si votre couple a foiré, Dieu peut le réparer. Si vous avez vécu un drame, Dieu peut vous donner d'autres projets, je le crois. Mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'il faut prier pour être équilibré. Amen. On demande au Seigneur qu'il nous aide. Hein. Peut-être on refera une autre étude. Moi, j'en ai fait 5 ou 6. Je les avais fait il y a 5 ou 6 ans d'une manière différente. Mais on pourra y revenir. Je voudrais qu'on puisse prier. Peut-être que vous connaissez des couples qui ont besoin de cet enregistrement. Eh bien, commandez-le, on vous l'offrira s'il vous faut. Mais ça peut aider des couples, surtout à mieux communiquer. Voilà, on prie le Seigneur. Je le répète, si vous avez des questions, si vous n'osez pas les poser, mettez-les dans une boîte. Dans une boîte et on essaiera de faire une soirée pour répondre à ces questions qui sont certainement importantes. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu as tout créé. C'est toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils soient bénis. Tu as dit dans ta parole que les familles de la terre seraient bénies en toi. Et nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui bénis les couples, qui sont attentifs à tes commandements. Seigneur, tu as mis dans le cœur de ta parole ce livre, c'est vrai, le Cantique des Cantiques. Nous croyons qu'il y a une beauté extraordinaire pour l'Église et le Christ. Mais nous croyons, Seigneur, que tu veux que les couples soient bénis. Que tu veux que les couples soient heureux, parce que tu veux que l'Église soit heureuse. Nous te prions, Seigneur, pour tous les jeunes qui veulent se marier. Seigneur, qu'ils soient conscients de la beauté, de la responsabilité de fonder un foyer. Seigneur, merci pour ta parole. Pardonne-moi si j'ai été maladroit dans certaines façons de présenter les choses, mais c'est ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux bénir tous les couples. Tu vois cette prédication qui a été enregistrée, qui sortira sur le net, qu'elle puisse aider des couples à réapprendre, à s'aimer, à parler, à communier. Nous te prions pour tous les couples de l'Église, Seigneur, tous les couples, te demandant de les aider, de les bénir. Parce que nous croyons que si le mariage est honoré de tous, l'Église sera un instrument formidable pour attirer des hommes et des femmes à ta grâce. Aide-nous, Seigneur, accorde-nous cette intelligence spirituelle, cette sagesse, Seigneur, pour avoir également du bon sens. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Amen.